Bonjour Tiffaine, bon après-midi à vous. Aujourd'hui, dans la compagnie, c'est le dernier volet de notre série consacrée au poète né à Brest en 1878 et mort dans la forêt de Huelguat dans le Finistère en 1919, Victor Segalen.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'enfance et la jeunesse de Segalen contrastent fortement avec sa vie d'adulte et ce n'est sans doute pas un hasard. Élevé dans une atmosphère confinée par une mère qui le surveillait et le surprotégeait, il est parti dès qu'il l'a pu chercher en Polynésie et en Chine de quoi satisfaire son besoin de liberté, de jouissance et de paradis perdu. Cela, il l'a trouvé en partie, mais pas assez cependant pour dissiper toute mélancolie. Comme nous l'avons vu lundi, c'était avec Marie Dolé qui lui a consacré une biographie aux éditions Aden. Mardi, il n'y a pas eu d'émission, c'était jour de grève à Radio France. En revanche, hier, nous avons parlé du cycle chinois de Segalen à travers deux livres qui se situent dans ce pays et qui en intègrent la culture et les coutumes. Jean-François Louette nous a donc parlé de Fils du ciel et puis Pierre Glaude a ensuite évoqué pour nous le roman René Leys. Et aujourd'hui ?
Ya hei po hei hei fa o re du ri ri O o e sho a ta ui he re.
Aujourd'hui, pour évoquer Segalen dans son rapport à la peinture et à la Polynésie, deux thèmes liés notamment par la figure de Paul Gauguin, nous sommes en votre compagnie, Colette Camelin, bonjour.
Bonjour, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous avez édité aux éditions Hermann les actes d'un colloque sur Segalen, sous-titré « Attentif à ce qui n'a pas été dit ». C'était en 2018 à Cerisy. Que signifie ce titre un peu énigmatique ?
Ce titre est à prendre en plusieurs sens. Premièrement, c'est une citation d'un poème de Stel, du premier poème de Stel, attentif à ce qui n'a pas été dit, soumis à ce qui n'a pas été promulgué, et il manque le dernier. Bon, c'est pas très grave. Et en tout cas, cela veut dire que Segalen est attentif à ce qui n'a pas été dit et ne veut pas inscrire sa poésie dans les cycles traditionnels comme étaient les stèles traditionnelles qui honoraient des sages ou des héros. Donc lui, attentif à ce qui n'a pas été dit, cela veut dire qu'il engage sa poésie sur un chemin absolument original. Ma vision du monde, dit-il, c'est ma vision du monde à moi. Et c'est toujours son idée qu'il doit sortir des chemins battus. Cela l'aide, bien sûr, de découvrir d'autres cultures, mais c'est aussi un travail en lui. C'est-à-dire qu'il se méfie de tout ce qui risque de l'enfermer, tout ce qui est dogmatique. Hein, par exemple, il dit à propos de son petit dieu du voyage, « Vide de dogmes, il sera plus léger à mes mules ». Donc c'est ça sa véritable vocation. Alors d'autre part, j'ai choisi ce titre pour le colloque, puisque nous nous sommes réunis à Cerisy. Bon, il y a déjà eu beaucoup de travaux concernant Segalen et nous avons voulu être attentifs à ce qui n'a pas été dit sur Segalen.
Voilà, et sur apporter Segalen.
Apporter du nouveau.
Alors vous avez été aussi attentif à ce qui n'a pas été dit dans le numéro 2 des cahiers Victor Segalen sur son rapport avec la Polynésie, oui, que vous avez fait paraître en 2015 chez Honoré Champion, éditeur. Vous avez aussi établi avec Carla Vandenberg le volume 2 des œuvres critiques de Segalen, c'est-à-dire ses premiers écrits sur l'art où il parle donc notamment de Gauguin, Gustave Moreau ou encore plus généralement de la sculpture. On va en parler dans cette émission, mais avant cela, un mot, si vous le voulez bien, Colette Camelin, sur la réception de Segalen aujourd'hui, parce que c'était aussi l'un des sujets du colloque de Cerisy. Est-ce qu'il est beaucoup lu, beaucoup cité, en cette année du centenaire évidemment plus que d'habitude, mais j'ai envie de dire, de manière générale, quelle est sa place aujourd'hui dans la littérature française et francophone ?
Alors, il faut un petit peu séparer les domaines. Dans la littérature, disons, dans l'espace académique. Dans l'espace académique, il apparaît comme un auteur du début du XXe siècle et on lit, enfin du moins j'espère, dans les universités, on lit volontiers Stel et il est assez souvent cité dans une constellation, disons, d'auteurs du début du XXe siècle avec sa voix proche. Par ailleurs, il y a une réception qui est particulière à Ségalène, qui est due aux immémoriaux et aussi à ses travaux concernant la Chine, qui est une réception importante à l'étranger.
Et en Chine en particulier.
Et en Chine en particulier, puisque nous avons publié en fait avec Postel et Huangbei, il y a 2 ans, un volume de lecture de Stel faite par des Chinois. Donc ça, c'est d'ailleurs magnifique, un volume magnifique dans les cahiers Ségalène, dans lequel il y a notamment un poète chinois contemporain qui a écrit sur Ségalène.
Mais il est lu comment ? Il est lu comme écrivain ou il est lu comme un occidental qui regarde la civilisation chinoise pour ce qu'elle dit de la civilisation, justement ?
Il est lu comme les deux, c'est-à-dire qu'il est lu comme poète, ça c'est très net dans la plupart des communications, mais aussi dans les textes de ce poème qui s'appelle Pei, il est lu comme le témoin d'une Chine, d'une culture chinoise extrêmement vivante, qu'il a connue au début du XXe siècle et qui n'existe plus guère maintenant. Donc il y a cet aspect-là aussi.
Alors en France, on l'a peut-être un petit peu considéré comme étant un érudit, un petit peu obscur, de culture artificielle, disait même l'un de vos auteurs favoris,
oui.
Je crois, Saint John Peirce. Pour quelle raison le considère-t-on comme ça ?
Alors il y a plusieurs aspects. Bon, d'une part, en ce qui Saint John Peirce disait ça en ce qui concerne Stel. Bon, Antoine Compagnon a fait un cours très brillant au Collège de France qui s'intitule « La guerre des écrivains », c'est-à-dire la guerre entre les écrivains. Et c'est certain que Saint-Jean-Perse et Claudel voulaient garder le territoire asiatique comme leur précaré. Donc, ils avaient tendance à écarter ceux qui osaient marcher sur leur plate-bande. Alors, il y a cet aspect-là. Et il y a un autre aspect, c'est que à l'époque de Ségalène, on n'a pas compris les épigraphes. C'est-à-dire que beaucoup ont cru que les poèmes de Ségalène étaient des traductions de poèmes chinois, et Saint John Peirce d'ailleurs a participé à étendre cette rumeur, alors que en réalité ce n'est pas du tout le cas. Les épigraphes ont été souvent composés en chinois par Ségalène lui-même, qui pratiquait le chinois, ou bien c'était des citations de textes chinois traditionnels qu'il a reprises. Donc il y a eu ce malentendu à propos de Stel. Puis alors il faut aussi dire une chose, c'est que Peinture, qui a été publiée en 15, est tombée absolument dans le noir total de la guerre, donc n'a pas été lue du tout. Et après, les œuvres de Ségalène sont restées enfouies parce qu'il est mort, que sa femme s'est remariée, et c'est seulement sa fille qui a repris la publication de ses œuvres après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu un espèce de... Disons que le malentendu a pu perdurer parce qu'on n'a pas connu ces autres œuvres qui ont été publiées après.
Donc c'est plutôt finalement la Chine qui reste le grand continent associé à Ségalène, le grand pays continent associé à Ségalène, davantage que la Polynésie dont on va parler aujourd'hui, Colette Camelin.
Bon, c'est évident qu'il y a passé beaucoup plus de temps. Il est resté en Chine de 1909 à l'été 14, hein, août 14. Donc, et il a appris le chinois, il a parcouru la Chine d'est en ouest 2 fois sur une grande diagonale. Il a découvert le tombeau de Cheng Wangti, etc. Donc, c'est vrai que son travail en Chine a été considérable. Aussi, la culture chinoise lui a permis d'écrire des œuvres capitales comme Stel, Peinture et Tibet, par exemple, ou Le Fils du Ciel, Les Immémoriaux. Le Fils du Ciel, je veux dire, est équipé. Donc la Chine est à l'origine d'un grand nombre d'œuvres. Néanmoins, la Polynésie a été importante puisque ça a été son démarrage.
Je t'ai dit avoir été heureux sous les tropiques. C'est violemment vrai. Pendant 2 ans en Polynésie, j'ai mal dormi, de joie. J'ai eu des réveils à pleurer d'ivresse du jour qui montait. Les dieux du jouir savent seuls combien le réveil est annonciateur du jour et révélateur du bonheur continu que ne dose pas le jour. J'ai senti de l'allégresse couler dans mes muscles. J'ai pensé avec jouissance. J'ai découvert Nietzsche. Je tenais mon œuvre. J'étais libre, convalescent, frais et sensuellement assez bien entraîné. J'avais de petits départs, de petits déchirements, de grandes retrouvées fondantes. Toute l'île venait à moi comme une femme. Et j'avais précisément de la femme là-bas des dons que les pays complets ne donnent plus. Outre la classique épouse maori, dont la peau est douce et fraîche, les cheveux lisses, la bouche musclée, j'ai connu des caresses et des rendez-vous et des libertés qui ne demandaient pas autre chose que la voix, les yeux, la bouche et de jolis mots d'enfant. À Tahiti, donc, j'ai sans geste précis connu des heures nocturnes radieusement belles. Les parfums s'y mêlaient sans doute, mais je sais fermement pourquoi j'y fus heureux. Je sais aussi que lorsque j'y retournerai pour vivre et écrire mon maître du jouir, j'y retrouverai sous des espèces nouvelles, oh, pas de passion personnelle, d'analogues moments. Ou bien je ne serai pas digne de sentir et de vivre.
Extrait d'une lettre de Ségalène à son ami Henri Manseron, datant du 24 décembre 1911. Alors, Colette Camelin, les années polynésiennes, ce sont les plus belles de la vie de Ségalène. En tout cas, c'est ce qu'on ressent à l'écoute de cette lettre.
Alors, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir passé de la musique maori, parce que pour Ségalène, c'était un élément très important. Et il a d'ailleurs écrit « Voix morte, musique maori », un article qu'il a envoyé à Debussy et que Debussy a apprécié. Et il opposait donc ce que vous avez entendu à l'instant, c'est-à-dire ces voix profondes aux hymnes que chantaient les protestants, un pays grêle et lent qui semblait plein de vieillards. Donc on a à partir de là l'opposition très nette entre la Polynésie qui est à la fois pour lui sur le plan sensuel, sur le plan sexuel, sur le plan, mais aussi sur le plan artistique, une Arcadie, un paradis, et au contraire qu'il oppose justement à ce qu'il a souffert d'un catholicisme, disons, assez fanatique dans sa jeunesse.
Alors il faut interroger un petit peu ce terme d'Arcadie. C'est vrai qu'à l'époque, la Polynésie évoque pour les voyageurs occidentaux une espèce d'âge d'or, un endroit miraculeusement préservé. On pense à Bougainville, ou en tous les cas à ce que Diderot fait dire à Bougainville dans son supplément au voyage de Bougainville. Est-ce que c'est le cas aussi pour Ségalène, et est-ce qu'il n'y a pas une déception au moment où il arrive sur ces îles par rapport à ce qu'il avait imaginé au départ?
Bien entendu, pour Ségalène comme pour Gauguin, il y a eu, disons, deux sortes de déceptions. La première déception qui a beaucoup marqué Gauguin, il a dit « j'arrive et j'espérais trouver des sauvages et j'espérais que j'aurais juste à lever les bras pour cueillir des fruits aux arbres. Et en fait, je ne trouve que des civilisés. » C'est-à-dire que la colonisation a fait son œuvre. On est à peu près un siècle après le début de la colonisation. Et donc, le mode de vie, disons, originel, s'est beaucoup étiolé par rapport à ce qu'il rêvait et par rapport à ce qu'a vu Bougainville aussi. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que, comme vous savez, l'Arcadie est un lieu mythique, enfin, c'est un lieu réel, c'est un pays montagneux de Grèce, mais c'est devenu un lieu mythique dans la culture antique, parce que c'était considéré comme un pays dans lequel, c'est un pays pauvre où vivaient des bergers qui n'étaient pas soumis à la loi de la cité. C'était donc le lieu de l'amour. Il y avait les bergers et les bergères. On jouait de la flûte et on s'aimait. Donc, c'est à peu près ça que recherchent les Occidentaux. Ils ont ces mythes antiques quand ils arrivent en Polynésie. Bon, ce n'est pas ça qu'ils trouvent. Et Ségalène, en tant que médecin, a découvert une réalité beaucoup plus terrible et inquiétante. C'est que on sait que entre 1842 et 1920, la population des îles Marquises est passée de 20 000 à 2 000 habitants. Donc, il a remarqué l'état sanitaire de la population à laquelle il était confronté tous les jours en tant que médecin. Et c'est vraiment comme dans le tableau de Poussin, et in Arcadia ego. C'est-à-dire, en Arcadie, il y a aussi la mort. Et Ségalène a été très sensible à cette présence de la mort et de la destruction au sein même de ce qui était présenté comme l'Éden ou le paradis terrestre. Et c'est ce qu'il a essayé de combattre.
Alors il le combat en écrivant, c'est-à-dire en cherchant à faire revivre les derniers moments de la culture maori à travers son grand livre « Les Immémoriaux ».
C'est cela, c'est-à-dire que à peine était-il arrivé, au bout de quelques semaines, il écrit à un de ses amis que ça y est, il a son sujet et qu'il va pouvoir dès maintenant se mettre au travail. Alors son travail au départ commence par l'étude de l'ethnologie, c'est-à-dire qu'il lit les grands ethnologues qui l'ont précédé, Morenhout, etc., Wallis et d'autres, et il se prépare une documentation très fournie sur les mythes polynésiens, sur les coutumes, etc. Et d'autre part, il fait lui-même des enquêtes. Par exemple, il va à bicyclette dans des endroits écartés de l'île, essayer de rencontrer des villages où subsistent les traditions ancestrales.
Les traditions et la langue, la parole, voilà. Qui s'est perdue à tel point que peut-être à un moment donné, il connaît mieux que les Maoris tout un pan de leur culture.
Alors, en tout cas, la langue existait beaucoup à son époque. Elle existe d'ailleurs toujours. La langue a été préservée en Polynésie. Il y a même un CAPES français polynésien. Donc, la langue existait. Mais ce qu'il y a de particulier chez Ségalène, et c'est pour ça qu'il m'est cher, je dois dire, c'est que, à la différence de la plupart des Français qui considéraient que c'était en gros des sauvages et que cette langue ne présentait aucun intérêt, il a appris leur langue. Il l'a apprise et il y a réfléchi, il a essayé d'en comprendre non seulement les mythes, mais aussi la syntaxe, mais aussi la profondeur spirituelle, on peut presque dire la métaphysique, à travers la langue. Alors, il était précédé dans ce travail par Gauguin, qui donnait des titres en maori à ses tableaux, « Ta toi, les dieux », etc. Mais bon, c'est vrai que Ségalène, là, a eu vraiment une force très grande. Il a été attentif à ce qui n'a pas été dit.
Mais qu'est-ce que ça nous dit sur la démarche de Ségalène dans les Immémoriaux? Est-ce qu'il est ethnologue? Est-ce qu'il est poète? Et finalement, quelle est pour lui l'importance mythique de la parole? Est-ce que c'est la parole qui crée la poésie? Est-ce que la parole perdue, oubliée, dont il faut chercher à se souvenir, c'est ça le grand sujet de Ségalène pour vous, Colette Camelin?
Bon, Immémoriaux, le titre même, signifie que les personnes ont perdu la mémoire de leur culture. Et cependant, c'était un peuple immémorial en un autre sens, c'est-à-dire un peuple qui vivait dans ces îles depuis des siècles et qui avait créé une culture tout à fait originale. Donc il s'agit pour lui d'essayer de sauver ce qui peut encore en être sauvé de cette culture. Alors, pour sauver ce qui peut être sauvé d'une culture, le principe courant à cette époque, c'est bien entendu l'ethnologie. Et Ségalène avait lui-même d'ailleurs visité le musée des American Indians à New York, et il avait été très attristé de voir tous ces objets sacrés dans des tiroirs. Alors, plutôt que de les mettre dans des tiroirs, il a voulu raconter une histoire qui les fasse vivre. C'était ça son objectif.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Victor Segalen. Avec vous, Colette Camelin, Victor Segalen, qui a donc abordé la Polynésie d'un double point de vue, du point de vue de l'artiste dont on vient de commencer à parler, mais aussi du point de vue de ce qu'il représente, de la puissance coloniale. Et ça nous permet de parler un petit peu justement du rapport de Segalen avec cette idée de la colonisation. D'abord, quel genre de colon est-il ? Parce qu'il va passer quand même 2 années. Dans ces îles, c'est un colon qui se met, et on l'a compris déjà dans ce que vous nous disiez à l'instant, Colette Camelin, à hauteur de la population qu'il rencontre.
C'est très évident que Segalen faisait partie de l'armée coloniale. Il était militaire, il était marin. De ce point de vue-là, il ne remettait pas en cause, en tout cas, j'ai vu à aucun moment, qu'il ait remis en cause de manière directe l'entreprise coloniale.
Et même plutôt au contraire, pourrait-on dire, il justifie la colonisation par la supériorité scientifique, politique, éthique même de la civilisation occidentale, on peut dire ça ? Comme étant une supériorité ?
Il avait une certaine distance vis-à-vis de ces aspects-là. En fait, il a une position très ambiguë. C'est aussi ce qui le rend intéressant aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'il est écouté par des personnes qui s'occupent d'études postcoloniales ou aujourd'hui en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie où il est lu. Parce que il avait une position qui n'était pas cette position de supériorité franche telle que vous venez de la décrire et qui était la position majoritaire. Il pensait que la civilisation, comme il dit que la civilisation a été néfaste pour ce peuple. Donc il avait tout de même là-dessus une constatation claire, qui était d'ailleurs sans doute dû aussi à son travail de médecin, qu'il avait l'habitude d'observer les corps et de voir qui était malade et pourquoi. Donc là-dessus, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il y a une autre dimension, qui est une dimension cette fois culturelle, c'est qu'il était il avait été élevé, d'une part dans le catholicisme intégriste et d'autre part dans le positivisme de ses études scientifiques, et il rejetait l'un et l'autre. Et donc, de même que Gauguin est parti à Pont-Aven chercher une spiritualité qui serait plus authentique, disons, que celle de Saint-Philippe du Roule, comme disait Peggy. Mais Segalen, lui aussi, était très sensible à une spiritualité très authentique. Et il n'était pas persuadé que la culture scientifique soit à ce point supérieure.
Mais il y a un certain nombre de Polynésiens, intellectuels, qui lui reprochent quand même, à lui d'ailleurs comme à Gauguin et à Loti, de ne pas avoir considéré les effets destructeurs de la colonisation sur, entre guillemets, les indigènes. Donc il y a ça quand même comme critique aujourd'hui.
Oui, mais je ne suis pas... cette critique peut s'adresser davantage à Gauguin, à mon avis, encore qu'il faudrait... étudier les choses de près. Enfin, je pense quand même que vraiment Gauguin, lui, il était dans une position de petit colon face à l'institution coloniale. Mais il était venu là-bas en tant que petit colon qui aura une vie plus facile qu'à Paris. Mais pour Segalen, c'est différent. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre les préjugés, c'est un peu fort, mais disons que le caractère très très raide de l'opposition des études postcoloniales aille au fond de la pensée de Segalen. Et je pense vraiment que la pensée de Segalen est beaucoup plus subtile que cela, sinon il n'aurait pas écrit Les Immémoriaux et Le Maître du Jouir.
Ces voix des Maoris de Polynésie répandues à travers le Pacifique étaient sœurs par le langage, par les contours de leur mélodie, par le rythme, par la race, enfin. Ce fut, durant un long temps, un bruissement de beaux sons rauques, ou plus doux, de rudes cadences, ou souples, et une incessante mélopée. Chaque instant de la vie joyeuse avait son chant réservé, son mode de parler, sa danse originale. On s'assemblait, on festoyait parmi ces voix. Même on se battait avec mesure. Car, avant la mêlée des poings et le jet furieux des lances, les chefs, sur un ton particulier, s'injuriaient et s'exaspéraient l'un l'autre. Viennent les hommes blancs, tout se défigure. Tout se fausse, et d'abord la race elle-même. Une par une, les voix se taisent. Pis encore, celles qui subsistent ne parlent plus qu'en reniant tout leur passé. À Tahiti, aux Ibrailles, aux Samoa, en Nouvelle-Zélande, elles s'affublent et se guindent de psalmodies catégoriques, dérivées du redoutable choral luthérien, nulle révolte. Les rythmes libres se laissent catégoriser. Cela dès le début du dernier siècle.
Une lecture par Michel Bouquet d'un extrait de l'article « Voix morte, musique maori » où Ségalène expose sa vision de la destruction par l'Occident des civilisations polynésiennes. Alors c'est un tout petit peu à double tranchant, Colette Kamelin, cette vision qu'a Ségalène des peuples et de la culture polynésienne. D'un côté, il admire ces cultures, il souhaite qu'on les préserve, il admire leur pureté. Et quand on va du coup du côté de ce mot-là, de pureté, on déroule un peu la pelote et on se rend compte que il est du coup hostile au métissage. Et ça a conduit un certain nombre de personnes, et notamment dans le colloque de Cerisy de l'an dernier, à dire « oui, mais au fond, Ségalène, il y a quelque chose d'un peu nazi chez lui, dans l'idée qu'il faut préserver les races telles qu'elles sont et qu'il ne faut pas de mélange ». Qu'en pensez-vous, Colette Kamelin?
Bon, ça c'est un problème un peu compliqué. En fait, il était très attaché à la culture originelle de chacun, c'est-à-dire mais sans hiérarchie. C'est-à-dire que cette culture maori qui s'était fabriquée dans les îles au cours des siècles, elle avait sa valeur, de même que la culture bretonne a sa valeur, ou que la culture auvergnate a sa valeur, ou que la culture de Bavière a sa valeur. Donc, pour lui, pour bien saisir cela, il faut saisir cela dans le cadre de son idée du divers. En fait, ce qui compte pour lui, c'est que la diversité des cultures soit préservée. Il n'est pas c'est donc absolument tout le contraire du mythe nazi où il y aurait, enfin, de l'idéologie nazie où il y a une culture supérieure qui doit anéantir toutes les autres. Là, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que chaque culture a sa spécificité et elle doit nourrir cette spécificité à partir d'œuvres qui la font vivre.
Mais est-ce qu'on peut du coup le qualifier d'antimoderne dans le sens où ce qu'il cherche c'est un ailleurs, et cet ailleurs il est à la fois géographique et en même temps il est temporel, parce que pour lui c'est dans l'autrefois, dans le jadis, que réside ce qui est réellement intéressant, et au fond la modernité vient souiller un petit peu cet autrefois.
Oui, bon, c'est vrai que dans son essai sur l'exotisme, il a écrit « les ailleurs et les autrefois ». Mmh. Hein, c'est donc ce qu'il cherche. Mais je voudrais quand même insister un petit peu sur un point, c'est qu'il a évolué. Alors, il faut faire attention avec Ségalène, comme avec tous les auteurs, il ne faut pas le fixer, l'essentialiser à une certaine période de sa vie. Et la guerre, notamment, l'a fait changer. Et dans ses derniers textes, Imago Mundi, par exemple, et Tibet, là, il est beaucoup plus... disons qu'il s'accorde beaucoup moins... il accorde beaucoup moins une supériorité au passé en tant que tel. Au contraire, il voudrait que son œuvre littéraire, il a même l'ambition que son œuvre littéraire, que sa notion d'exotisme puisse libérer les peuples de ce qui les entrave, et notamment d'un nationalisme exacerbé, des guerres, etc. Donc là, il faut vraiment lire ses derniers textes pour comprendre comment il a évolué et pour effectivement sortir de cette vision un petit peu schématique qu'on en donne souvent.
Colette Camin, vous restez avec nous, on va continuer à parler avec vous de Ségalène et de la Polynésie à travers en seconde partie son rapport au peintre Gauguin qui a vécu également dans ces îles. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Nathalie Frolov.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nathalie Frolov, professeure en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour Nathalie.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui dans cette émission où on va parler d'un poète qui regarde un peintre, je l'ai dit, Ségalène qui regarde Gauguin, vous nous parlez de Ségalène qui regarde un poète, c'est-à-dire en l'occurrence Arthur Rimbaud.
Oui, alors Édouard Glissant disait dans une archive de l'émission de lundi que Ségalène avait essayé d'établir un rapport fondamental entre celui qu'il est et l'autre. Il dit, Édouard Glissant, qu'il a entrepris, je cite, « cet effort terrible d'être à la fois le même et l'autre, soi et autrui ». Et c'est précisément sur cette question que se concentre Ségalène dans un article sur Rimbaud, publié dans le Mercure de France en avril 1906. Ségalène y évoque, ce qu'on peut dire du poète, ceux qui l'ont connu à Djibouti et à Aden, où Ségalène s'est lui-même rendu, sur les traces de Rimbaud. Ségalène est en effet fasciné par ce qu'il appelle le double Rimbaud, à la fois génie explorateur, poète, vagabond. Et il s'interroge sur cette énigme du poète qu'il nomme irrécusable. Il écrit ainsi, je cite, « Entre l'auteur des Illuminations et le marchand de cartouches au Harar, il existe un mur. Et ce mur ne serait ni plus complet ni plus étanche si au lieu de n'avoir été que le second aspect du même homme, l'explorateur était né frère ennemi du poète, si en place d'un double Rimbaud, nous avions eu deux Rimbauds. » Gérard Massé, dans sa préface au double Rimbaud, déploie la polysémie de ce titre. Rimbaud est ce monstre de duplicité, mais aussi l'autre soi-même qui revient nous hanter périodiquement, spectre qui nous interroge et sosie qui ne répondra pas. Cette figure du double fascine aussi Gérard Massé, jusqu'au vertige. Puisqu'effectivement, on sait que Gérard Massé affectionne aussi beaucoup cet aspect-là du vertige, en fait, hein, qui est quelque chose de très important chez lui, cette figure du double, en fait.
Alors, on pense au vertigo d'Hitchcock que Gérard Massé affectionne, donc, vous le disiez tout particulièrement, comme le montre, par exemple, son livre intitulé « Colportage 3 ».
Oui, et si Gérard Massé écrit sur Ségalène, qui écrit lui-même sur Rimbaud, c'est parce qu'il voit aussi Ségalène comme un double, à la fois explorateur, à la fois poète, ethnologue, médecin, et non pas bien sûr comme un écrivain voyageur qui collectionnerait les anecdotes, les objets exotiques, ses abolis bibelots d'inanité sonore. Lors d'un colloque consacré à Ségalène, Gérard Massé réfléchissait aussi donc sur cette idée du sosie et du double langage. Il y évoque la rencontre avec l'autre, qui est certes radicalement étranger, qui est un inconnu, mais qui est aussi un revenant, comme celui qui revient de Chine et qui revient du fond de soi-même, comme un soi-même un instant retrouvé mais qui ne répond plus à l'appel d'aucun nom. On est donc ici à la lisière du réel et de l'imaginaire, et Ségalène va y déployer en effet toutes ces figures du double. On peut penser bien sûr à René Leys, qui est sans doute la version la plus romanesque du double, en tout cas la plus fascinante par le jeu de mise en abîme. René Leys comme double narrateur, comme aussi acteur au don d'ubiquité, et figure exaucée de Maurice Roy, lui-même double de l'empereur défunt. Gérard Massé fait vraiment résonner cette figure de l'autre et du double dans une lignée qui remonterait donc de Ségalène à Rimbaud. Et ce qu'on voit très très bien dans cet ouvrage qu'il appelle « L'autre hémisphère du temps », il y concentre, dans des pages saisissantes, aux confins de l'essai du poème et de l'anthropologie, la traversée des mers, la conquête de l'Amérique du Sud, entre le bateau ivre, un mouvant labyrinthe, une poudre aux yeux des épices, ou les trophées qu'on n'appelle pas encore des souvenirs. Donc on a ici un voyage dans le temps, 5 siècles en arrière, et ce voyage est d'abord une odyssée dans les relations de l'époque qui sont donc des récits disparates, discordants, des conquistadors, qui échappent à la synthèse englobante. On voit donc Gérard Massé, on voit chez lui en fait cet art de la leçon de choses qu'on retrouve aussi d'une certaine manière chez Ségalène, art de la leçon de choses dont témoignent les dessins d'Émile Boucheron que Gérard Massé présente dans un petit livre magnifique du même nom. Donc lire Gérard Massé, c'est en quelque sorte aussi lire Ségalène et dans un retour à mots, lire Rimbaud. Le voyage est ainsi littéraire, il s'agit de devenir un autre en voyageant ou de devenir soi en lisant les autres. Ségalène cherche en effet chez Rimbaud l'écho d'un passé qui n'appartient qu'à soi et il est donc marqué d'un chiffre trop personnel, comme le dit Gérard Massé. Mais Ségalène cherche aussi chez Rimbaud ses éclats prophétiques, cette emprise immédiate de Rimbaud sur le réel et l'imaginaire. Ségalène nous invite ainsi à une lecture spéculative qui interroge notre propre rapport à la lecture qui deviendrait se lire en soi dans la poésie d'un autre et n'est-ce pas là une miraculeuse définition de la lecture ?
Merci beaucoup Nathalie. Un tout petit mot, vous avez un livre préféré de Ségalène ?
Alors moi j'aime beaucoup Stèle. Parce qu'effectivement, Stèle, je pense tout de suite à cette édition à la chinoise en fait de 1914 qui se déploie, qui est magnifique, qui a été reprise en facsimilé chez Châtelain-Julien. Mais je préfère en fait équipée avec ses paysages en terre jaune et sa mélancolie voyageuse.
Donc l'objet Stèle, mais le texte d'équipée. Merci beaucoup Nathalie Frolov d'être venue apporter votre pierre à cette série. C'est Galène de la Compagnie des auteurs. À très bientôt. C'est la compagnie des auteurs donc que vous écoutez sur France Culture. Nous achevons aujourd'hui une série consacrée à Ségalène dont on parle avec Colette Camelin et à présent sous l'angle de son rapport avec Gauguin. Gauguin qui a aussi résidé, on le sait, en Polynésie.
J'ai eu le grand regret d'arriver trop tard aux îles Marquises pour pouvoir assister Gauguin en ses derniers moments. Mais sitôt de retour à Tahiti, je me suis empressé comme un dernier devoir de piété artistique de sauver de la dispersion les quelques œuvres reliques qu'il laissait. Celles-ci ont été vendues publiquement à Papette. Elles étaient à vrai dire peu nombreuses et peu caractéristiques de son développement. J'en accepterai deux toiles. L'une figure, trois tahitiennes, détachée sur un ciel de chrome, acquise par un de mes camarades. La seconde qui m'est échue, c'est un douloureux portrait de Gauguin à mi-torse, le sourire triste. En épigraphe, près de Golgotha. J'ai en outre acquis un second portrait de Gauguin plus récent, deux études faites en Bretagne et une grande toile d'une vision tahitienne rare. Sur un lointain de cobalt, passe, lent, avec des gestes qui évoquent les puvis de Chavannes, des indigènes ambrés. C'est d'un très précis exotisme. Je puis dire n'avoir rien vu du pays et de ses Maoris avant d'avoir parcouru et presque vécu les croquis de Gauguin.
Journal des îles par Michel Bouquet. Alors Gauguin et Ségalène ne se sont donc pas rencontrés, Colette Camelin, mais Ségalène, il n'est pas passé du tout à côté de Gauguin, bien au contraire.
Il y a deux circonstances. La première, c'est le fait que Ségalène avait vraisemblablement entendu parler de Gauguin dans le milieu du Mercure de France, qu'il fréquentait tout de même à Paris. Il s'était rapproché notamment de Remy de Gourmont et d'autres critiques du Mercure de France. Donc il connaissait en tout cas au moins de réputation Gauguin, ce qui a pu attirer son attention. La deuxième, et ça a été en quelque sorte une chance pour lui, c'est que son navire, par un ordre administratif, a été missionné pour récupérer toutes les affaires de Gauguin qui se trouvaient dans sa maison, on dit un faré, aux Marquises. Après sa mort, alors ce qui était vendable avait été vendu, c'est-à-dire le mobilier, les provisions de morphine, etc. Mais il restait des œuvres d'art. Et surtout, il restait une malle dans laquelle Gauguin avait entassé, disons, ses écrits. Parce que dans les dernières années, il ne pouvait pas plus beaucoup peindre parce qu'il était très très malade et il avait les yeux très fatigués et donc il écrivait énormément. Et Ségalène, une fois qu'il a été de retour dans son navire, a pu compulser tous ses écrits et ça a été absolument capital pour lui. C'est-à-dire qu'à la fois il a découvert les œuvres de Gauguin, notamment sa sculpture, et ses écrits qui ont complètement orienté sa propre œuvre littéraire.
Donc vous dites que Gauguin, c'est l'intercesseur pour Ségalène. Qu'est-ce qu'il comprend finalement de Tahiti grâce à lui ?
Alors, grâce à lui, d'abord, il comprend tout simplement la spécificité naturelle de Tahiti, c'est-à-dire cette végétation luxuriante, la couleur des ciels, le lagon qui a des couleurs très différentes, etc. Enfin, la présence de la Polynésie déjà en tant que lieu, en tant que pays. Bon, d'autre part, il découvre aussi à travers l'œil de Gauguin le peuple polynésien, parce que c'est vrai que Gauguin a peint les Maoris, les hommes comme les femmes, en étant très attentif à la spécificité de leur physionomie, de leur physique, et notamment au caractère, à leur force. On voit que ce sont des corps qui sont habitués au travail physique, à la natation, etc., et qui ne ressemblent pas, disons, au modèle de la sculpture académique qui était en cours à l'époque. Donc cela, il l'a compris. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que Gauguin a sculpté d'abord des dieux, et ces dieux, il les a ensuite peints dans ses tableaux, donc il sculptait ses propres modèles, en quelque sorte, et il a aussi emprunté beaucoup de décorations, enfin, à Borobudur et à la sculpture asiatique, et donc Ségalène a découvert donc un univers spirituel qui l'a fasciné, qui l'a passionné et qui l'a approfondi par la suite.
Et un univers graphique, parce que c'est tout de même absolument incroyable de voir à quel point Ségalène a tout de suite vu dans ses tableaux qu'il achète et que tout le monde méprise, quelque chose qui est fondateur pour l'art moderne, qui va se déployer ensuite tout au long du XXe siècle.
Effectivement, Ségalène avait un œil, hein, ça, je crois que là-dessus, c'est incontestable. Et il a compris, justement, la spécificité de la peinture de Gauguin, la peinture en aplat, le fait aussi que Gauguin reconstitue un univers dans sa peinture. Il construit une toile, ça n'a absolument rien de réaliste. Hein. Les scènes, même les scènes de sacrées, de cultes sacrés, sont complètement reconstituées par son imagination et elles sont reconstituées par aussi en fonction de ses propres choix graphiques, esthétiques. Et en particulier en ce qui concerne les couleurs en aplat, les contrastes, les contours cernés, etc. Ségalène a vu tout cela et il l'a énormément apprécié, alors que quelques années auparavant, Gauguin avait fait une exposition à Paris qui avait été un échec complet.
Mmh. Alors au-dessus de la porte, je crois, de la maison de Gauguin, il y avait marqué... Maître du Jouir,
c'est maison ça. Du
maison
jouir.
Du Jouir, Maison du Jouir, et ça donne à Ségalène l'idée d'un livre qui serait une sorte d'hommage à Gauguin, mais un petit peu transposé, et qui s'appellerait Le Maître du Jouir, un roman inachevé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est tout de même un livre très étonnant, Colette Camelin.
Oui, c'est effectivement un livre étonnant parce que le projet de Ségalène consistait à reprendre la culture maori un siècle après les immémoriaux, c'est-à-dire à l'époque contemporaine pour lui, au début du XXe siècle. Et là, il imagine qu'un artiste de la stature de Gauguin, d'ailleurs au début il l'appelait Rorin, puis ensuite il l'a appelé Gauguin, hein, carrément, pourrait rendre aux Maoris, un groupe de Maoris, sa force, sa santé. Il en est beaucoup question, le Maître du Jouir, sa santé, sa force physique, Et sa joie.
Un petit peu comme dans les immémoriaux, il s'agit de sauver le peuple maori, mais d'une autre manière, et là par une fiction, enfin un récit mythique.
Oui, par une fiction, c'est tout à fait ça. Alors, bon, il imagine donc que son Gauguin, parce qu'il dit mon roman Gauguin, donc son personnage Gauguin, emmène avec lui, disons, l'équivalent d'un village de maori dans une île isolé de l'archipel des Marquises, éloigné de l'archipel des Marquises, et que là, il reconstitue la vie traditionnelle, alors déjà les coutumes, etc., et puis surtout la vie religieuse. Donc pour cela, il sculpte des dieux, et il organise des immenses fêtes dans lesquelles les Maoris vont retrouver leur sens premier de la fête, du rapport au monde, du lien entre l'humanité et le monde. Il y a aussi quelque chose dans le Maître du Jouir qui nous fait réfléchir aujourd'hui, parce que au fond, on parle beaucoup aujourd'hui des Indiens d'Amérique, par exemple, pour nous donner des leçons sur le rapport à la Terre. Et dans le Maître du Jouir, justement, le rapport au cosmos, le rapport aux puissances telluriques et puisque ce sont des volcans, et aussi au ciel. Dans toutes ses dimensions, à l'océan, dans la force extraordinaire qu'il a dans ces pays. Bon, tout cela est présent. Et il y a aussi la sculpture d'un dieu. Alors, c'est un immense dieu. Et le Gauguin de Ségalène rend aux Maoris une religion. Mais seulement, comme leurs dieux ont été défaits par le christianisme, ils n'avaient pas confiance, selon Ségalène, en leurs dieux traditionnels. Donc, il invente toute une cosmologie nouvelle à partir des Védas et des dieux de l'hindouisme. Et il crée donc Agni, Oro, donc il mélange les dieux des Védas et les dieux traditionnels. Et à partir de là, il imagine un culte. Alors il y a des scènes magnifiques, hein, où on a cette statue qui sort des flammes, etc. Et seulement, évidemment, l'histoire se termine mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas complètement rédigé la fin, mais le plan est tout à fait clair, puisqu'à la fin il dit que son héros sera rattrapé par l'administration coloniale et qu'il en mourra. Mais malgré tout, donc en fait, ça pose un certain nombre de problèmes. Cela veut dire, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que pour Ségalène, il n'est guère possible que les Maoris s'en sortent par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une sorte d'homme providentiel et un artiste qui peut les sauver.
Un artiste français, en l'occurrence.
Un artiste français.
Ouais. Voilà. Et puis, on peut faire une autre critique, entre guillemets, qui rejoint ce qu'on disait en première partie d'émission, c'est qu'on retrouve un peu l'obsession de la décadence des peuples et le fantasme d'une régénération des peuples qui, de la même manière, peut sonner comme ça, un petit peu bizarrement aux oreilles, quand on veut bien faire attention à ce qu'il y a de sous-jacent là-dessous. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire cette critique?
Effectivement, le Maître du Jouir est resté un projet pour lui très important, qu'il a gardé toute sa vie. Il avait même l'intention, quand il était en Chine en 14, de retourner aux Marquises sur une goélette qui aurait été louée par Gilbert de Voisin pour finir le Maître du Jouir. Donc c'est vraiment resté pour lui un projet essentiel. Néanmoins, c'est un projet inachevé. Je ne suis pas sûre que à la fin de sa vie, il l'aurait achevé de cette façon. Je crois qu'il a dû s'en éloigner aussi un peu. Alors, parce que sa théorie du divers, en fait, est un petit peu je dirais pas en contradiction, mais en tout cas en délicatesse avec ce qu'il dit dans ce livre, puisque ça voudrait dire que il y a une culture qui doit être sauvé par un Européen, et donc en fait ce n'est pas franchement un échange, alors que dans sa théorie du divers telle qu'il l'a définie à la fin de sa vie, il y a vraiment des allers-retours et c'est d'ailleurs comme cela qu'il pratique plutôt en Chine. Donc il a évolué aussi par rapport à ça.
Alors s'il aime beaucoup Gauguin, Ségalène, c'est parce qu'il le considère comme un artiste un peu hors la loi, oui, dans la lignée des poètes maudits. Et il fait de Gauguin, dans son Maître du Jouir, une sorte de Zarathoustra. Il y a quelque chose de nietzschéen dans la manière dont il dépeint ce Gauguin, Colette Camelin.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il avait l'intention d'écrire un livre qui se serait appelé « Les hors-la-loi », dans lequel il y aurait eu Gauguin, Rimbaud et Nietzsche. Et quand il était en Polynésie, il était complètement imprégné de Zarathoustra. Alors, Zarathoustra, effectivement, sculpte le surhumain dans les îles bienheureuses. Et donc, on peut penser qu'il transfère ce chant de Zarathoustra dans le Maître du Jouir, puisque là, du coup, le Maître du Jouir va sculpter une population surhumaine dans une île bienheureuse, en effet. Et la présence de Nietzsche est très très forte chez Ségalène toute sa vie.
Donc c'est une utopie, finalement, ce livre?
Oui, on peut dire que c'est une utopie qui est, c'est comme souvent les utopies, c'est une utopie qui se termine mal. Mmh. C'est-à-dire que justement dans la mesure où elle est déconnectée du réel, elle n'est pas franchement viable. Mais son objectif aussi principal, c'est d'écrire un grand roman. Mmh. Et il voulait écrire un grand roman qui soit un roman à la fois sur la culture maori très profonde et aussi sur Gauguin, sculpteur. Et là-dessus, il est très original parce que à son époque, on n'avait pas encore beaucoup remarqué la force de la sculpture de Gauguin. Bon, on considérait Oviri ou l'idole à la corail comme des fantaisies un peu barbares. Or, Ségalène avait vraiment compris à quel point cette sculpture était d'une très grande force et c'est effectivement à l'origine d'une grande partie de la sculpture moderne.
Pourquoi est-ce qu'il ne termine pas ce livre? Il y a une esthétique peut-être même de l'inachèvement chez Ségalène qui a finalement terminé assez peu ses ouvrages. Est-ce qu'il y a une raison qui va au-delà de cela?
Alors, j'ai travaillé sur les manuscrits du Maître du Jouir. Et c'était absolument fascinant parce que ces manuscrits étaient écrits au revers d'exercices de caractère chinois. Ce qui fait qu'on avait d'un côté l'altérité maori et de l'autre côté l'altérité chinoise sur une même feuille. Et c'est vrai qu'il y a eu comme peut-être une sorte de télescopage entre le moment où il s'est passionné pour la culture chinoise et l'écriture de ce texte qu'il n'a pas achevé. Mais comme je l'ai dit, il avait quand même toujours l'intention de le finir. Et c'est vrai aussi que Ségalène a beaucoup souffert, il faut tout de même le dire, de ne pas avoir le temps de mener ses ouvrages à bien. S'il avait bénéficié d'une fortune telle que celle de Marcel Proust, on aurait sûrement eu des œuvres beaucoup plus abondantes et en tout cas achevées. Mmh. Il dit justement qu'il dit « Moi-même, avec tout mon désir de connaître, avec mes mains et des genoux, avec mon cœur faibli d'horreur et de lacis et d'imposture. » Et il se sent enfermé dans ses lacis qui sont liés à sa position de militaire.
Mais malgré tout, qu'apporte-t-il à la poésie du XXe siècle pour vous, Colette Camelin?
Ce qu'il apporte à la poésie du XXe siècle, je crois que c'est justement cette propre liberté et la diversité de ses approches. Et Ségalène, pour moi, et en ce sens c'est vraiment un Nietzschéen, Ségalène c'est un esprit libre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est toujours tenu en dehors de toute chapelle, quelle qu'elle soit. Et c'est quelqu'un qui a toujours, comme il dit, moi-même avec tout mon désir de connaître, c'est-à-dire cet immense désir de connaître et de comprendre et de ne jamais s'arrêter à une position dogmatique. Et du coup, cela donne des œuvres magnifiques. Bon, vous parliez tout à l'heure d'Équipée. Il se trouve que j'ai voyagé il n'y a pas longtemps, tout à fait par hasard, à côté d'Annie Lebrun. Et je lui ai dit, tiens, en ce moment, moment, je suis en train de préparer les actes d'un colloque sur Ségalène. Elle m'a dit, ah, Ségalène, pour moi, une des plus grandes œuvres du XXe siècle et peut-être la plus grande en prose, c'est Équipée. Mmh. Et donc, parce que Équipée, c'est vraiment un texte complètement en or, mais c'est un texte qui fait travailler à la fois, et bien sûr, l'imagination, mais aussi le corps. Il y a une expérience du corps chez Ségalène qui est
vitalisme,
extraordinaire.
C'est le vitalisme, la vitalité toujours présente. Toujours sans cesse appelé même par Ségalène à la fois dans ses textes et puis dans sa vie.
Tout à fait. D'ailleurs, il dit connaître avec mes mains et mes genoux, pas à pas seulement d'une manière intellectuelle.
Merci beaucoup, Colette Camelin. Donc de nous avoir éclairé sur l'Arcadie de Ségalène. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de littérature française à l'université de Poitiers, que vous êtes également présidente de l'association Victor Ségalène, co-directrice des actes du colloque de Cerisy, Victor Ségalène, attentif à ce qui n'a pas été dit, publié chez Hermann en 2019. Et puis on vous doit de nombreux autres ouvrages que nous mettrons en référence sur notre site internet. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, votre semaine se poursuit avec La Compagnie des poètes. Et nous, on se retrouve lundi pour la dernière semaine avant la grille d'été. Il sera question de T.E. Lawrence, alias Laurence d'Arabie. Mais pour l'heure, voici venir Jacques Bonafé et ses lectures de textes poétiques.
Bonjour, bonjour la compagnie. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Louis Giovannoni. Alternance entre deux recueils, deux rythmes de poèmes. Le premier vient par phrases courtes. Ça fait penser aux oiseuses. Vous savez, ces poèmes chers aux trouvères d'Arras. Écoutez, l'air cicatrise vite. Si au moins on voyait les coutures. Accélère, ne reste pas sur place. La meute n'est pas loin. On croyait qu'en donnant aux pierres un nom, elles ne nous quitteraient plus. J'attends toujours que quelqu'un vienne se déposer en moi. Oh, phrase énigmatique, j'attends toujours que quelqu'un vienne se déposer en moi, qui nous donne l'enchaînement avec cet extrait de Sous le seuil. Les roses flétrissent et les pucerons abondent. On est un peu chez Ronsard, mais enfin, les roses flétrissent et les pucerons abondent. Au petit jour, des fourmis nous déménagent. Troupeaux verts tendres emportés vers de jeunes plants de tomates et de haricots nains. Nous déménagent. Quel est ce nous ? C'est nous ! C'est nous qui sommes les pucerons. Alors ça, c'est insensé. Le poète se voit dans le puceron. Il se représente puceron. Jardin arrosé, la sève à fleurs, vent léger, fraîcheur des feuillages. Nous suçons nuit et jour et nos femelles pondent sans arrêt. Demain, nous serons des centaines, des milliers. La naissance se fait par le siège, ensuite viennent les pattes, lenteur, la tête en dernier. Un chien court dans le jardin, se rue sur les tomates, creuse dans un carré de pommes de terre, secoué, plusieurs pucerons tombent. Nous ne les reverrons plus. En bas, combien de bouches ? Rostre planté, m'accroche, la sève afflue. Abdomen gonflé, le miella exude, les fourmis qui font travailler les pucerons, on s'en souvient, les fourmis pressent nos flancs, elles en veulent toujours plus, perles à peine formées, déjà emportées. Fin août, les fourmis accélèrent leur cadence, 15 traites par jour ne suffisent plus, l'automne approche et la reine est féconde. La relève n'attend pas, les plus performants sont installés dans une fourmilière près de la chambre des princesses pour fournir à toute heure. Le cheptel augmente, les moins goûteux sont abandonnés à l'asphyxie dans leur miella. Sur ce suspense, je propose quelques phrases de rétablissement dans l'air cicatrise vite. Restez parmi les choses sans bouger. On tire la tête et tout vient avec. toujours cette attirance pour le regard des autres. Entre chaque objet, ce vide où le monde s'engouffre.
Jacques Bonnafé avec un dernier moment toujours autour du poète Eugène Savitskaya et de Jean-Louis Giovannoni.